Bien, prenons nos Bibles et regardons de nouveau dans 1 Timothée chapitre 6. Et je voudrais reprendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Et je voudrais avoir comme sujet aujourd'hui saisir la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est de saisir la vie éternelle? Ici, Paul donne cette instruction à Timothée, lui disant dans le verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, et voici le thème de ce sujet, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, quelles sont les choses qui peuvent faire détourner les gens, même ceux qui professent connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais les détourner de la foi? Il y a bien des choses, non seulement dans le monde, mais il faut dire dans nos cœurs, parce que nous sommes toujours des pécheurs de nature, même si le Seigneur Jésus-Christ a payé notre dette à la croix et nous a appelé par son esprit à lui-même. Néanmoins, il y a ces luttes en dehors et au-dedans de nous qui, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous retient, alors nous allions abandonner la foi et poursuivre la voie de ce monde. Donc, c'est pourquoi Paul écrit à Timothée qu'il doit avoir comme but tous les jours et prière à Dieu de le garder et de saisir la vie éternelle. Je sais que nous croyons que la vie éternelle, c'est de connaître, comme c'est écrit dans Jean 17 et le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc, quand c'est écrit ici de saisir la vie éternelle, c'est de chercher et saisir le Seigneur Jésus-Christ comme tout l'objet de notre foi. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, nous allons tous se perdre comme le monde. Alors, je sais que ça pose peut-être la question, mais est-ce que la Bible n'enseigne pas qu'une fois sauvé par Christ, alors toujours sauvé? Et la réponse est oui, que Christ lui-même a dit cela de tout ce que le Père lui a donné, il ne perdra rien. Mais néanmoins, ce que Paul est en train de d'écrire ici dans cette épître à Timothée, c'est de faire attention. Et d'être sûr effectivement s'assurer que nous sommes effectivement un de ceux-là pour qui Christ est venu et pour qui Christ est mort et par qui nous sommes sauvés. Parce que simplement avoir une profession de foi, je connais beaucoup qui ont une fois prêché ces doctrines qu'ils appellent les doctrines de la grâce. Et puis après un certain temps, se sont retournés dans le monde pour une raison quelconque. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont jamais réellement saisi la vie éternelle. Ils n'ont jamais été réellement sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Autrement, ils ne se seraient pas détournés de la foi. Mais quels sont les dangers de se détourner? Quoique depuis plus de 30 ans maintenant, je prêche cet évangile précieux qui donne toute la gloire à Jésus-Christ. Néanmoins, je ne peux jamais dire « alors je suis arrivé » et que je n'ai plus rien à craindre, à peur d'être comme Judas Iscariote, qui marchait avec le Seigneur Jésus et qui a entendu les enseignements de notre Seigneur Jésus. Mais après un certain moment, c'est détourné. Alors c'est pourquoi, pour la raison ici, de mettre en garde Timothée comme pasteur et prédicateur, et je dois dire que c'est surtout ceux qui sont devant les hommes et qui prêchent ce message de l'Évangile et les gens les suivent qui sont le plus en danger de se détourner à cause de la popularité ou bien peut-être comme c'est écrit ici dans le verset 10, l'amour de l'argent. Combien de prédicateurs se sont détournés parce qu'ils disent « Ah, mais c'est difficile de prêcher ce message de Christ et je ne peux plus endurer l'isolation et l'opposition que j'endure à cause de l'Évangile. » Et dès que l'opportunité se lève pour aller dans un autre milieu où là, il y a du salaire et on peut mieux bien vivre, alors on abandonne pour suivre à cause de l'amour de l'argent. Notez bien dans le verset 10, ça ne dit pas que l'argent est une racine de tous les maux. C'est évident que nous avons besoin de vivre et nous avons besoin d'avoir des moyens de pouvoir poursuivre nos vies et payer nos bons et même investir pour l'avenir, pour la retraite ou autre. Mais le danger ici, c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. On ne peut pas avoir le cœur fixé sur Christ, ce qui est de saisir la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Et en même temps, avoir le cœur sur un gain sordide, c'est-à-dire avoir à tout prix de l'argent. Il y en a qui ont prêché un certain temps et que ça semblait qu'ils étaient réellement des serviteurs de Christ, mais après un certain moment, leur tête s'est détournée parce qu'ils ont commencé à vouloir avoir davantage de l'argent et ont commencé à poursuivre les richesses de ce monde. Il y a beaucoup de voleurs qui tiennent la chair aujourd'hui, qui prêchent, mais leur véritable intérêt n'est pas Christ, mais c'est d'avoir une certaine vie qui est facile. Et c'est pourquoi, alors, ils prêchent, c'est d'avoir ce gain de la part de ceux qui les suivent. Alors, nous devons faire attention et nous devons reconnaître que ce danger est en nous tous. Il ne faut pas dire que non, mais je ne serai pas de ce nombre-là où l'amour de l'argent va me détourner. Faites attention, parce que ce mal est en chacun de nous à cause de notre nature pécheresse. Donc, nous devons prier à ce que le Seigneur nous garde tous les jours et avoir des yeux sur Christ et Christ seul. Ce désir et cette recherche de l'argent plonge pas mal de gens dans la ruine et dans la perdition. Cela semble être peut-être un peu sévère, mais il y a pas mal de misère qui attendent ceux du monde et même pour ceux qui professent être chrétiens. Voilà le point clé pour moi. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous sommes élus de Dieu, si Christ est mort pour notre péché et l'Esprit est en nous en conséquence, c'est Dieu qui nous préserve. Christ lui-même encore dans Jean 17 a demandé à son Père de ne pas retirer ses enfants du monde, mais de les préserver dans le monde, de tout mal. On peut peut-être poser la question, mais pourquoi Dieu n'enlève pas complètement, dès que nous sommes convertis, enlève complètement ce désir qui plonge pas mal dans la perdition. Pourtant, nous portons dans notre chair, comme Paul a dit dans Romains chapitre 7, les choses qu'il veut faire, il ne fait pas, et les choses qu'il ne doit pas faire, c'est ça qu'il fait. Ça, c'est la lutte de cette chair. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu ne l'enlève pas complètement? Je dois dire que cette chair fait tellement partie de nous que la seule manière de tuer cette chair, c'est de mourir. Aussi longtemps que nous sommes en vie, il y aura cette lutte dedans. Et c'est seulement Christ, notre avocat, qui nous préserve, et l'Esprit qui continue à diriger nos cœurs envers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut reconnaître alors le danger. Et ici, le danger, premièrement, c'est l'amour de l'argent. C'est une tentation, est un piège dans lequel beaucoup tombent, laissés à eux-mêmes. Et deuxièmement, plusieurs désirs insensés et pernicieux, quand ils peuvent s'accorder l'objet de leur convoitise, désirs que notre mauvaise nature cherchera nécessairement à réaliser si ce n'est pas Dieu, à sa grâce, qui nous garde sur cette voie de Christ. Et comme Paul le dit, ça affecte une ruine non seulement matérielle, mais morale, dans le fait que nous ne pouvons pas prendre ces biens avec nous. Lorsque le moment vient où Dieu nous prend de ce monde, mais plus que ça, une perdition éternelle qui est la conséquence, parce que l'homme maintenant, tiré par ce désir et cet amour de l'argent, ne suit plus le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur utilise ces tentations, ces pièges pour nous faire voir ceux qui lui appartiennent, qui continuent toute leur vie en regardant Christ et cherchant Christ et Christ crucifié, et le reste qui part désir pour les richesses, pour être satisfait par les richesses, que d'être satisfait en ce qu'ils ont en Christ, alors finissent par la perdition. Cela ne dit pas que il y en a qui sont sauvés et puis en fin de compte maintenant qui sont perdus. Non, si leur âme est maintenant attachée à ces richesses en fin de compte et qui sont condamnés par ces richesses, ça c'est une preuve certaine qu'ils n'étaient jamais sauvés, qu'ils n'étaient jamais à Christ. Parce que comme nous avons déjà cité que tous ceux que le Père a donné à Christ, il ne perdra rien, mais le ressuscitera au dernier jour. Mais nous devons quand même être conscients que la seule différence entre nous, qui sommes enfants de Dieu, et le reste du monde, c'est la grâce de Dieu, c'est tout. Parce que nous avons les mêmes tentations que le monde, nous avons les mêmes convoitises dans nos cœurs. Mais l'avertissement ici, c'est de savoir que ceux qui veulent chercher les richesses de ce monde et y mettre leur cœur, tout ce que les richesses peuvent apporter, c'est beaucoup de douleur. Douleur incessante par les menaces de la ruine et par les soucis perpétuels. Parce que, vous le savez, si vous mettez votre cœur sur les richesses, en imaginant que c'est par ces richesses que vous aurez la satisfaction, la paix, ce sont des choses temporaires. Et donc, il y a toujours non seulement les soucis à cause de ces biens, mais bien plus fort, ce sont ces choses, comme c'est écrit ici dans 1 Timothée 6, ceux-là étant possédés dans le verset 10 de 1 Timothée 6, se sont égarés loin de la foi. Voilà mon plus grand souci. C'est qu'après avoir, durant ces années, prêché le Seigneur Jésus-Christ et professé d'avoir saisi la vie éternelle en lui, de finir par contre de m'égarer, m'éloigner de la foi. Alors, Paul, durant toute cette épître à Timothée, le met en garde contre les dangers. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 19, là encore, ça c'est écrit pour notre bien. Mais il parle de cela, il dit à Timothée, en gardant la foi et une bonne conscience. Comment est-ce qu'on garde la foi? C'est un combat. Même Paul parle de ça ici dans le verset 12, combat, le bon combat de la foi. La foi, là, c'est Christ. C'est la révélation de Christ que nous avons ici dans l'Évangile et qui déclare sa personne, mais aussi son œuvre. Et voilà sur quoi nous devons avoir le cœur fixé, non pas sur les biens de ce monde ou bien le souci de savoir, mais comment est-ce que je vais manger demain et commencer à poursuivre cette voie. Paul dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et notez, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Comme Ésaü, qui a vendu son droit de naissance pour un pot de soupe, en quelque sorte. Et qui alors a perdu maintenant son droit, qui devait être à lui, mais c'est un moment donné où il a préféré avoir de quoi manger que de regarder à Dieu, de le soutenir. Alors, ceux qui ont fait naufrage dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1, il parle de ceux qui sont des apostats. 1 Timothée chapitre 4, l'apostasie de la foi, c'est-à-dire avoir fait face à la foi pour un certain temps, mais maintenant être tiré de cette foi pour poursuivre autre voie. Ici, dans 1 Timothée 4, Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils n'auront plus jamais le souci d'entendre ce message de la foi. Et d'avoir cette foi en Christ qui donne aux siens. Mais maintenant, comme c'est écrit ici, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, ceux qui, soit pour les richesses ou bien pour être populaires, commencent à poursuivre un message populaire pour avoir un honneur qui vient des hommes, tout à travers, comme c'est écrit, des enseignements. Ce sont des pasteurs, des prédicateurs dans le monde. Mais ici, Paul appelle cela des doctrines de démons. Pourquoi? Parce que la seule vraie doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8, voyez le souci de Paul en écrivant à Timothée, et c'est pourquoi nous, en tant que prédicateurs, nous devons prendre ça à cœur. Parce que nous ne sommes pas exempts de ces mêmes tentations. C'est écrit dans le verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il parle là de ceux qui ont peut-être la responsabilité pour certains membres de leur famille, mais qui disent, comme disaient souvent les pharisiens, non, non, je ne peux pas m'en occuper parce que tout ce que j'ai maintenant doit être consacré au service du temple. Pourtant, la raison pourquoi ils ne voulaient pas s'occuper de leur famille, c'est parce qu'ils étaient orgueilleux et ils cherchaient leur propre gain, leur propre bonheur à travers même la religion. Et cela a renié la foi. Si Christ s'est révélé en nous, nous aurons non seulement ce désir pour l'honneur, la gloire de Christ, mais en même temps, nous aurons à nous occuper de ce que le Seigneur nous a donné, afin que le nom de Christ ne soit pas blasphémé. Et aussi, dans le verset 12 de ce même chapitre, il parle de ceux qui se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Il parle là de certaines veuves qui sont encore jeunes et par les convoitises ou le désir de se marier pour avoir une meilleure vie, se sont entraînés, comme c'est écrit dans le verset 11, refuse les jeunes veuves car lorsque la volupté les détache du Christ. Voilà une bonne expression de ce qui se passe lorsque nous sommes envahis et pris par les convoitises de cette chair et qui nous poussent de se détacher de Christ et veulent se marier, c'est-à-dire si c'est comme des hommes qui veulent s'attacher à d'autres choses, à d'autres biens, que de rester attachés à Christ. Comme je dis ici, c'est un danger qui est en nous tous, le courant est toujours là, à cause de la nature pécheresse qui est en nous, mais notre espoir, c'est que si nous sommes véritablement en Christ, nous ne pouvons jamais l'abandonner. Mais nous devons rester toujours en garde de savoir si jamais Dieu enlève sa main de nous, nous irions exactement dans le même sens, jetés dans bien des tourments. Alors, c'est là que nous arrivons maintenant dans le verset 11. C'est pourquoi il dit « pour toi ». C'est comme si en contraste de tout cela, « pour toi, Timothée, pour toi, enfant de Dieu, pourquoi serviteur de Dieu. » Ici, c'est écrit « homme de Dieu ». Donc, Paul revient maintenant à son cher Timothée, qu'il appelle son fils dans le Seigneur. « Toi, l'homme de Dieu », ce terme est souvent employé dans l'Ancien Testament et qui s'applique à des hommes suscités par Dieu pour le service du Seigneur. Ça appartenait souvent aux prophètes de l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament. Je trouve que de temps en temps, c'est une expression que les gens utilisent me concernant. Quand ils m'écrivent « l'homme de Dieu », c'est un titre qu'il faut prendre au sérieux, parce que cela veut dire que ceux-là sont en train de te regarder comme un serviteur que Dieu lui-même a suscité. Je préfère ce terme que le terme qui est utilisé souvent aujourd'hui, « révérend ». Il n'y a qu'un seul révérend, c'est Christ. Nous ne devons jamais prendre ce titre pour nous. Mais « homme de Dieu », ça nous rappelle que nous ne sommes pas au service pour nous-mêmes. Et nous ne travaillons pas pour le Seigneur pour un gain sordide, mais pour la gloire de Christ. Donc, ici, Paul rappelle à Timothée que voilà ce qu'il est, par la grâce de Dieu, un homme de Dieu. Et donc, il dit, fuis ces choses. Dès que cette convoitise se suscite dans le cœur, par la grâce de Dieu, il faut courir fortement dans l'autre sens que de rester là et être entraîné comme d'autres qui se sont égarés loin de la foi. Tout ce qui touche à la foi, dans le sens de nous faire égarer, c'est un danger. C'est comme quelqu'un qui est en train de traverser un fleuve et voilà, le courant veut l'entraîner. Il faut doubler les efforts par la grâce de Dieu de traverser ce fleuve et ne pas être entraîné et alors faire naufrage. Donc, ce n'est pas simplement une question de fuir ces choses, mais notez le sens positif dans le verset 11. Recherche! Et voilà, six choses que Paul dit ici à Timothée de rechercher. Et encore, ça c'est dans le but de saisir la vie éternelle. Donc, premièrement, il dit « recherche la justice ». Cela ne signifie pas de rechercher notre propre justice, nous n'en avons pas. Mais quand il dit « recherche la justice », c'est-à-dire de fixer son attention sur celui qui est notre justice, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu dans ce monde, afin d'obtenir cette justice de par sa vie parfaite et aussi de par sa mort efficace pour les péchés de son peuple. Donc, de rechercher cette justice, avoir le cœur toujours sur lui qui est notre justice devant Dieu. Cela ne dit pas de redoubler les efforts de rendre une justice nous-mêmes, mais de reconnaître que c'est effectivement pour déclarer juste les pécheurs comme nous que nous reconnaissons notre péché, notre nature pécheresse. Et nous reconnaissons que laisser à nous-mêmes les convoitises de ce cœur allait nous égarer, mais rechercher la justice, saisir celui qui est la justice et reconnaître en lui notre avocat devant Dieu. Et puis, nous voyons encore ce mot que nous avons vu la dernière fois, la piété. La piété signifie cette révérence pour Dieu. Ne jamais mettre sa confiance en soi-même, mais rechercher la piété, cette révérence pour Dieu, quand toute chose a lui la gloire. Donc voilà ce qui repousse alors cette convoitise du cœur que laisser à nous-mêmes est une racine de tous les maux et aller nous égarer loin de la foi. La foi est en Christ lui-même et ce qu'il a accompli. Donc, de saisir, de rechercher cette piété qui est en lui. Et puis, troisièmement, rechercher la foi. On ne peut jamais dire que je suis arrivé. Et donc, je n'ai plus besoin d'apprendre de Christ, mais de rechercher ce que la foi révèle de Christ, parce que la foi est la révélation de Christ. À ce que le Père a donné à son Fils. Et donc, voilà ce que nous faisons. Nous recherchons la foi. Nous désirons à mieux connaître le Christ qui est l'objet de la foi. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui surmonte toute convoitise de cette chair, que nous avons besoin de lui plus aujourd'hui que le jour que nous avons reçu de lui cette révélation. Et plus nous reconnaissons notre péché, plus l'Esprit nous conduit à Christ, qui est l'objet de la foi. Donc, recherche la foi. Et puis, troisièmement, ici, la charité. Ça, c'est le mot, l'amour. C'est le caractère même de Dieu. Donc, nous devons chercher cet amour de Dieu qui est connu uniquement en Jésus-Christ et qui est manifesté à travers ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu. Donc, la charité, ce n'est pas, notez le contraste entre verset 10, l'amour de l'argent qui fait partie de notre cœur, notre nature pécheresse, et la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, ayant les regards sur Christ et tout ce qu'il a accompli pour le salut des pécheurs tels que nous sommes, plus nous avons notre affection sur Christ, plus nous apprécions cet amour de Dieu pour nous et nous manifestons alors cet amour envers lui. Et puis, cinquièmement, la patience. Il faut cette patience de Dieu de pouvoir supporter toutes les difficultés de cette vie et toutes les convoitises de ce cœur. Il y en a qui pensent qu'une fois converti, alors plus de problèmes. Et ils parlent en termes de vivre une vie victorieuse au-dessus du péché. Ça, ce n'est pas la manière que la Bible décrit le cœur d'un enfant de Dieu. Non, il y a une lutte quotidienne parce que cette chair est en inimitié contre l'Esprit de Dieu. Mais nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui est souverain et donc ne peut jamais être envahi par cette nature pécheresse où maintenant l'Esprit n'a plus de pouvoir. Non, l'Esprit a tout pouvoir. Et donc, c'est l'Esprit qui donne cette patience, cette persévérance de continuer face à cette difficulté jusqu'au bout. Heureusement que ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est l'Esprit qui continue à les soutenir en Jésus-Christ. Et plus que cela, par l'Esprit, c'est Christ lui-même qui soutient les siens. Et puis, sixièmement, maintenant, il dit, recherche la douceur. La douceur, c'est cette paix que Dieu donne, que quelle que soit l'opposition à cause de l'Évangile, quelles que soient les difficultés que le Seigneur, par sa grâce, nous donne cet esprit, de ne pas réagir, mais de se reposer dans cette foi qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce sens-là que Paul, maintenant dans le verset 12, ajoute ces deux recommandations. D'abord, il dit, dans le verset 12, combat le bon combat de la foi. Donc ça, c'est la première des recommandations. Et puis, deuxièmement, nous voyons saisir la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que c'est de combattre le bon combat de la foi? Ici, c'est une image de ces combats qui ont eu lieu dans l'arène. Paul en parlait dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25. Et c'est à un tel combat que nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes appelés pour remporter le prix qui est le maintien de la vérité, d'être en Christ pour toujours. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, il tire des leçons d'athlétisme, quand quelqu'un entre dans l'arène, c'est un combat pour remporter la couronne, mais rechercher ou bien saisir la vie éternelle, ce n'est pas pour une couronne corruptible, mais incorruptible. C'est-à-dire d'avoir Christ. En fin de compte, faire tout pour le Seigneur Jésus-Christ, afin que toute la gloire en toutes choses revienne à Christ. D'ailleurs, avant même de faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit, on doit se poser cette question, mais comment est-ce que cela peut être pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Et quand ça parle ici, s'impose toute espèce d'abstinence, c'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises en tant que telles, mais si ces choses occupent nos vies, nos pensées, que de vivre notre vie pour Christ, mieux vaut ne pas participer. Et qu'à la fin, Christ est la gloire. Voilà notre couronne, c'est la gloire de Christ. Et c'est pourquoi nous combattons ce combat de la foi. C'est un combat pour la gloire de Christ contre toute convoitise ou toute chose qui pouvait nous égarer de lui. Là encore, c'est l'Esprit qui nous garde, mais néanmoins, c'est comme ça que ce combat se manifeste à travers nos vies. Et puis, deuxièmement, cette recommandation dont nous avons déjà parlé, de saisir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas ce que nous possédons en Christ, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de plus de ce qu'il nous a déjà donné. Mais comme nous avons vu dans le chapitre 17 de Jean, c'est d'avoir cette connaissance de Christ en toutes choses. Quel que soit ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'il daigne se révéler davantage en nous. Parce qu'à travers cette connaissance de Christ, nous avons certainement la vie éternelle. Comme il dit, à laquelle tu as été appelé. Personne ne peut pas combattre le combat de la foi si Dieu lui-même n'a pas, par sa grâce, ne l'a pas appelé. C'est pas à l'homme de par sa volonté de combattre et de saisir. Non. Le mot-clé là, c'est à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, quand il parle là, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, ça, c'est chaque fois que nous prêchons. Nous sommes en train de témoigner de ce Christ glorieux qui est le Seigneur Jésus. Et beaucoup voient, beaucoup entendent Et à travers le temps, ma prière, c'est qu'après avoir prêché à d'autres et rendu cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, que moi-même, en fin de compte, je me trouve comme toujours dans la foi, saisi par la foi, et jusqu'à la mort. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pouvait peut-être dire là, mais nous devons nous arrêter pour le moment et nous allons reprendre la prochaine fois à partir du verset 13. Dieu voulant que le Seigneur nous garde et qu'il nous tient dans ce combat pour la seule et unique gloire de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.